Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Salut Morden.
Salut, ça va?
Ça va bien, bon week-end, c'est la fête?
Ouais, tranquille, je suis en train de cuver une choucroute là.
Ouais, moi je cuve une soirée de jeu de rôle.
Chacun son truc.
Ouais, chacun son truc, effectivement. Alors, on va commencer cette semaine d'actualité par Sony. Et oui, Sony a décidé de ne pas vendre sa PlayStation Vita. Mmh. Et donc, à cet effet, écoutez, si vous avez une PSP, oubliez les transferts du MD parce que ben vous êtes européen, vous êtes américain, mmh. Et vous, salauds occidentaux, ben on s'en fout de vous. Vous allez raquer. Ouais.
Alors, on va expliquer un petit peu ce qui se passe. En gros, bah, en prenant toi en exemple, tu as une PSP avec lecteur UMD, évidemment, puisque tu n'as pas de PSP Go, et tu aimerais bien pouvoir transférer les jeux que tu as en UMD, ou du moins certains, sur ta PlayStation Vita. La PlayStation Vita n'a pas de lecteur UMD, on le sait depuis un moment. Les possesseurs de PS Vita japonais ont un programme pour ça. L'idée, c'est de pouvoir transférer via le PlayStation Store ces jeux-là en dématérialisé sur la PlayStation Vita. C'est payant. Ça varie entre 4 et 15 euros par jeu. Donc évidemment, les jeux les plus importants sont à 15 euros. Les jeux un petit peu moins intéressants sont à 4 euros. Et
ça,
tout
ça
le catalogue...
Ça ne peut pas du tout être bon marché gratuit. Hein,
et bien évidemment. Il faut savoir aussi que tout le catalogue n'est pas disponible sur ce programme-là. Donc déjà, ça a fait rager pas mal de monde lorsqu'on a appris que c'était payant. Mais là, on va encore plus rager puisque Sony l'a dit, aux USA et très certainement en Europe, ça n'est pas leur priorité. Donc pour le moment, on peut oublier l'idée de transférer ne serait-ce que God of War sur notre PlayStation Vita via le transfert UMD. Vous pouvez oublier ça. Donc moi, je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, je trouve que c'est quand même... ça commence à devenir lourd, toutes les choses qu'on ne peut pas faire.
Bah oui, non mais d'autant plus que là, ça veut dire tu te mets à la place du mec qui a pas forcément énormément d'argent dépensé. Le mec qui voulait, par exemple, vendre sa PSP pour au moins financer une partie de sa PlayStation Vita. Voilà. Mm-hmm. En gros, soit tu revends tous tes jeux PSP pour te racheter une PlayStation Vita, soit tu gardes ta PSP.
Ouais.
Moi, personnellement, moi je dis, écoutez, les gens, vous êtes gentils, votre console, certes, c'était un bel objet, etc., mais vis-à-vis de mes moyens, moi, ça coûte cher, et ma PSP, je vais la garder, et votre PlayStation Vita, vous allez la garder aussi, quoi.
Ouais. Donc, sur cette manœuvre, ça commence vraiment à être un petit peu gourmand. Hein. Après, il faut savoir que les jeux que vous avez achetés sur PlayStation Store, que ce soit sur PS3 ou sur PSP, donc ces jeux-là, vous les possédez en dématérialisé, vous pourrez les re-télécharger gratuitement sur PlayStation Vita. Ça a été clarifié, cette option-là, donc encore heureux, j'ai envie de dire.
En plus, tu vois, je trouve ça bête parce que on sait que Sony veut promouvoir son service dématérialisé, etc., sur console portable. Mais ce service de transfert, c'était justement l'occasion idéale pour faire découvrir aux gens comment ça marche, etc. Ceux qui n'avaient pas compte se créent un compte, voilà. C'était l'occasion idéale. Et là, bah non, écoute, on fait à peu près tout pour que les gens s'y intéressent pas. Ça va de pair avec les histoires dont on avait parlé la dernière fois. Hein, le côté, le transferring, etc. Jouer à tes jeux PS3 sur PSP. Oh, bon, il faut acheter deux fois les jeux. Enfin, bref, c'est le même truc, quoi. On fait tout pour que la console se vende pas, quoi.
Ouais. Non, mais ça, je sens les gens qui vont venir dire, oui, bon, vous êtes anti-Sony. C'est pas ça. C'est que
je suis un des rares possesseurs de PSP en Europe.
On a tous les deux une PS3. Toi, t'as une PSP. On est très intéressé par les PlayStation Vita, même si elle est très chère. Le souci, c'est que là, il commence à y avoir une espèce de propagande pour nous faire acheter des choses que fondamentalement on ne devrait pas acheter, et ça commence à devenir très très lourd.
Et d'ailleurs, les revendeurs l'ont bien compris. Hein. Bon, on va pas citer des noms, mais on voit les revendeurs qui ont déjà prévu de faire des offres alors que la console est même pas sortie. Ou genre, il y a une offre, on te rembourse 50 euros, il y en a une autre, on doit faire la carte mémoire, etc. Enfin bref, on voit bien que les revendeurs se rendent compte qu'il va y avoir un souci au niveau des ventes, quoi. Ils veulent pas se retrouver avec des consoles sur les bras, quoi.
Ouais. Et on voit qu'en fait, ils ont compris, ils ont capté la leçon du lancement japonais et que ils veulent tout faire pour qu'il y ait pas le phénomène, tu sais, de la PS Vita qui cale en deuxième semaine, quoi. Donc moi personnellement, je suis très curieux de voir ce qui va se passer le 22 février. Voir comment ça va se passer parce que pour le moment, avec le nombre de mauvaises nouvelles qu'on a à la semaine sur la PlayStation Vita, j'ai des doutes. Bon, après, on peut aussi se dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont acheter la PlayStation Vita qui n'ont pas toutes ces informations-là. Je sais pas si c'est bon pour eux d'ailleurs.
J'aimerais pas être à la place des revendeurs quand ils vont expliquer que, ah non, mais en fait, pour Uncharted, il faut que vous preniez la carte mémoire avec, hein.
Ouais.
Ah, elle est pas inclue dans le bundle, en fait, hein.
Voilà. Bon, attendons quand même le lancement. Mais c'est vrai que bon, ça commence à nous fatiguer très sérieusement.
Mais de toute façon, on verra. Je veux dire, au bout du bout, moi, je pense que ça va faire comme Nintendo.
Ouais.
Si vraiment la console se vend pas, ils vont être obligés de s'aligner, quoi. Je sais pas comment ils feront, hein. Parce que le truc, c'est que s'ils font ça quelque part, c'est aussi parce que au niveau des coûts de développement, etc., ils rentrent pas dans leurs frais.
Ouais.
Donc déjà, à mon avis, ils doivent la vendre à perte, là. Alors, qu'est-ce que ça va être s'ils doivent la vendre 100 € au moins ou 50 € au moins, je sais pas, mais ça va être compliqué, quoi.
Alors, après, je pense qu'il y a toujours des moyens de rester au même prix, mais d'en donner plus pour le même prix.
Oui.
Mais après, c'est sûr que c'est un signal qui est beaucoup moins fort de rester au même prix, mais d'en donner plus, plutôt que de baisser le prix, quoi.
Mais si tu veux, déjà, le prix initial, c'était déjà une barrière psychologique qu'il fallait passer. Alors avec tout ça en plus, bon voilà quoi.
Bah, enfin, on a déjà vu en tout cas que les 250 € les gens avaient du mal à les sortir avec la 3DS. Donc là on va voir ce que ça va donner. Bon.
On verra ça. Alors là on va passer à une série de news qui concerne une actualité de cette semaine très importante sur le studio Double Fine. Et on va commencer déjà par le créateur de Minecraft, Notch. Vous avez tout suivi, il y a le studio Double Fine qui a donc lancé une levée de fonds pour un point and click. Et donc, en parallèle de ça, il y a le papa de Minecraft qui a dit « Écoutez, moi, je suis prêt à financer le développement de Psychonauts 2. » Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, en voyant ça, qui ont demandé du Psychonauts 2, etc. Donc, le papa de Minecraft se propose de prendre des lingots dans sa piscine en or pour financer ça. Donc, on espère que ça aboutira.
Ouais.
Mais ce n'est pas le plus important, bien évidemment. Le plus important, donc, c'est cette fameuse levée de fonds du studio Double Fine. Et, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Morwen?
Alors, donc ça a commencé en fait cette semaine, en début de semaine, Tim Schafer en fait et sa team, donc le studio de Tim Schafer s'appelle Double Fine, qui a lancé en fait une levée de fonds sur Kickstarter. Donc Kickstarter, tu nous l'avais présenté rapidement la semaine dernière en parlant de Guns of Icarus.
D'ailleurs, Guns of Icarus, je précise, ils en sont à 20 000 $ alors qu'ils avaient demandé 10 000.
Ouais.
D'ailleurs, je pense que c'est très important de rappeler ce chiffre parce que vous allez voir par rapport au chiffre suivant qu'on va donner, c'est pas du tout la même échelle.
C'est ça. Alors, donc en fait, l'idée, c'est que les fans lèvent des fonds pour le développement du prochain jeu de Double Fine. Le jeu, pour le moment, n'a pas de nom définitif. On l'appelle pour le moment Double Fine Adventure. On sait que ça sera un jeu, un point and click, un jeu d'aventure point and click, comme Tim Schafer nous en a fait à ses débuts.
Et, chose importante, c'est du mécénariat. Ce n'est pas un projet où vous allez gagner des sous dessus. La philosophie de Kickstarter, donc, c'est de financer un projet qui vous tient à cœur. C'est du mécénariat. Oui. C'est pas une œuvre caritative non plus, parce que ça veut dire que, voilà, il faut vraiment que le projet vous intéresse pour que vous investissiez dedans. Mais vous n'êtes pas là pour gagner des sous, quoi. C'est vraiment, ne mettez de l'argent que si vous êtes sûr de vouloir aider le studio, quoi.
Ouais.
Tout simplement.
Bien sûr. Alors, donc, au niveau de la levée de fonds, donc, demandée par Double Fine, ou plutôt espérée par Double Fine, c'était 400 000 $. 400 000 $, donc, sur une période de 40 jours, un truc comme ça, c'est ça?
De 30 jours. Enfin, 33 jours, je crois, pour être exact.
Et donc, en gros, dans les premières 24 heures, il y a la levée de fonds s'est élevé à 1 300 000 dollars.
Sachant que l'objectif a été atteint en moins de 8 heures.
Voilà. Donc, vous comprenez, en fait, pourquoi il y a eu un tel raz-de-marée au niveau de l'Internet, pourquoi on a tant fait de news sur Double Fine, Double Fine Adventure et sur Kickstarter. C'est pour ça, c'est que ce phénomène ne s'était jamais passé de manière aussi forte et aussi rapide.
Ils ont explosé tous les records qu'il y a eu sur Kickstarter, quoi.
Voilà.
Et c'est impressionnant, quoi.
Alors, il y a des raisons à ça, hein. C'est qu'il y a des grands noms quand même qui sont derrière Double Fine. Il y a Tim Schafer. Tim Schafer, c'est quoi comme jeu? C'est Day of the Tentacle, c'est Full Throttle, c'est Grim Fandango.
Il y a Ron Gilbert aussi.
Voilà. Ça fait beaucoup de gens, en fait, qui sont assez adulés quand même dans le milieu du jeu vidéo. Ouais. Et donc c'est vrai que ça peut exprimer, en fait, l'impact de cette levée de fonds. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du point and click, il y a pas mal de gens qui aiment ça et qui attendent d'en voir des nouveaux.
Qui crèvent de faim, quoi, je veux dire. Ouais. À part certains studios allemands et Pendulo Studio chez les Espagnols, pas grand-chose après, quoi. Mm.
Donc après, il faut aussi savoir que Double Fine, ils connaissent les... Donc a priori, ça serait un jeu qui s'orienterait vers la Xbox 360, la PS3 et le PC. Donc tout le monde.
Attends, je précise, c'est d'abord le PC.
D'abord, oui.
C'est parce que c'est les PCistes techniquement qui sont en train de financer le truc là, normalement. Bien sûr. Donc c'est d'abord le PC et ensuite portage sur PS3, 360, iPad, iOS, enfin bref, toutes les plateformes, quoi.
Et alors, si vous regardez en fait le Kickstarter de Double Fine Adventure, vous verrez en fait la vidéo qu'ont fait les équipes de Double Fine pour nous présenter en fait le projet. Et donc, il faut bien savoir en fait que quand vous supportez ce projet-là, quand vous soutenez ce projet, on vous donne en fait, on vous offre autre chose que la clé du jeu en fait.
Je m'y avais fait un rappel la dernière fois, mais c'est toujours bon de le redire. Donc, le principe de Kickstarter, c'est donc vous versez la somme que vous voulez. Mais le truc, c'est que en fonction de la somme que vous versez, il y a des paliers. Et à chaque palier, il y a une récompense. Sachant que vous n'êtes pas obligé de prendre sa récompense. Vous pouvez dire, moi je donne parce que ça m'intéresse, la récompense gardez-la, c'est pas pour ça que je vous donne ça. Mais vous pouvez réclamer la récompense. Donc ça peut être n'importe quoi. En l'occurrence, donc là, pour le premier palier, donc c'est 15 dollars. À 15 dollars, vous avez le jeu.
Et la série de vidéos, en fait, les reportages que Double Fine va faire, en fait, sur le jeu, sur la phase de création du jeu et tout au long, en fait, du développement.
Sur les 400 000 dollars qu'il demandait au départ, il y a 100 000 dollars pour un reportage dans les studios Double Fine.
C'est ça.
C'est très intéressant parce qu'on va voir comment se développe le jeu, etc.
Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, en fait. Enfin, il y a vraiment des périodes où les studios sont relativement ouverts au reportage et encore, c'est très rare. Mais là, on va vraiment voir chaque étape du développement du jeu, et ça, c'est très intéressant. D'autant plus que Double Fine se montre en fait ouvert à la discussion avec les fans et ses mécènes. Donc ça peut être aussi très intéressant.
Alors ça, bon, moi, je vais revenir là-dessus, mais pour moi, c'est pas forcément. Je suis pas très très chaud pour ce genre d'initiative. Pourquoi? Parce que je veux dire, on n'est pas des développeurs, quoi.
Oui.
On n'est pas des développeurs. Moi, si tu veux, pour moi, la philosophie de Kickstarter, en tout cas, pourquoi ça m'intéresse, l'idée pour moi, c'est vraiment le mec nous montre la vision de son truc, ce qu'il veut faire, et en fonction de sa vision, tu vas choisir de financer ou pas.
Oui.
Parce que là, du coup, pour moi, ça pose un problème, si tu veux, ça peut. Mais on va pouvoir entrer dans ce débat parce que justement, c'est un débat que je voulais aborder. L'idée du truc, c'est voilà. Moi, j'ai un projet, je vous montre ça, je donne. Alors là, pour le coup, le problème avec Double Fine, c'est que c'est vrai quand même, c'est un peu vague, quoi. Ils arrivent, en gros, on va faire un point and click.
C'est ça.
Bon. Suite à ça, donc, il y a eu une série de débats qui sont créés sur Internet. Parce que bon, beaucoup de gens ne connaissaient pas le système de Kickstarter et ont pour le coup découvert comment ça marchait, etc.
Ouais.
et qui ont dit on pourrait quand même gagner de l'argent là-dessus. Bon, alors c'est pas du tout la philosophie du truc. Non, moi je peux comprendre, hein, tu vois, mais c'est pas l'objectif de la manœuvre là. En tout cas, il y en a d'autres qui disaient ouais, c'est la fête, les mecs ils ont 1 600 000 dollars, ils ont aucune contrainte, on n'a aucun droit à regard là-dessus, le système est complètement bidonné, enfin voilà. Ouais, alors il y a plein de trucs là-dedans moi qui me posent problème parce que bon, je veux dire, déjà quand t'es une équipe de développeurs pour se mettre d'accord, c'est pas forcément évident. Alors si, alors je crois qu'on est à combien là? On est à pratiquement 46 000 gugus qui ont financé le jeu. Satisfaire 46 000 personnes, pour moi, c'est pas possible quoi. Donc c'est pour ça que moi je dis, il faut vraiment que les mecs présentent leur vision du truc.
Alors après, ça peut peut-être aussi fonctionner par sondage dans le genre, par exemple, on peut te donner un choix, je sais pas, sur le design du héros, par exemple.
Oui.
Ça peut fonctionner dans ce genre.
Ça peut fonctionner à la marge, quoi, effectivement.
Voilà.
Mais voilà. Pour moi, ils doivent garder la main sur le truc, quoi.
Oui,
C'est
non, ça
très,
c'est
très,
sûr.
très important. Aussi, au niveau du financement, moi, je voudrais expliquer un truc là, parce que je vous cache pas que j'ai rongé mon frein cette semaine parce qu'il y a des forumers, j'ai envie de leur mettre des tartes dans la tête. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est là, ok, bon, c'est la fête, hein. Monsieur Tim Schafer lève un sourcil, tout le monde on lui donne 1 million de dollars comme ça sur une vague promesse. Moi, je peux comprendre, tu vois, que ça dérange les gens. Je le comprends d'autant plus que moi, ça fait un moment que je suis des projets indépendants et je vois des mecs qui posent leurs couilles sur la table et qui galèrent. C'est pas la fête, hein, sur Kickstarter. Je veux dire, si vous
Non, c'est
atteignez
clair.
pas l'objectif, vous touchez zéro, hein. C'est vous touchez rien. C'est on rembourse les gens et voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le petit studio normal, tu vois, où t'as pas Tim Schafer, où des gars qui sortent de nulle part, etc. Attends, ils sont obligés de présenter un truc, je dis pas forcément un truc vachement avancé, mais ils ont dû bosser au préalable, ils ont dû investir leurs
C'est
économies de
ça.
temps, etc. C'est pas la fête, quoi. C'est pas la fête du slip. Les mecs, ils ont besoin de Kickstarter pour bouffer, quoi. Quand je lis que ouais, ce système est complètement bidonné et qu'il faudrait que les gens donnent leur jeu gratos, les mecs, arrêtez de craquer là. Sérieux, non mais vous réalisez pas ce que vous demandez. Vous êtes en train de demander aux gens de pas bouffer là. Parce que déjà, techniquement, une grosse partie de l'investissement, la plupart du temps, c'est fait par les mecs, quoi. C'est sur leurs économies. Kickstarter, c'est à la marge. C'est un truc en plus. C'est du bonus. Ensuite, quand bien même le projet serait entièrement financé par Kickstarter, le projet suivant, c'est pareil, hein, il va falloir qu'ils aient quelque chose à montrer parce que les gens, ok, les gens sont généreux, mais ils sont pas corrompus, quoi. Ils vont pas donner de l'argent comme ça, ils vont pas jeter par la fenêtre, quoi. Et comment tu fais ça? Ben, les mecs, ils ont besoin de l'argent des ventes pour financer un projet de développement, tout simplement. Alors, moi, je peux comprendre qu'on dise, je veux payer un produit fini et il n'est pas question que j'ai pas les moyens comme ça de donner de l'argent sur des promesses, etc. Parce que finalement, c'est vrai que même si les gens ont quelque chose à présenter, ça reste des promesses. T'as aucune assurance que les mecs vont finir leur jeu. Clairement, tu prends un risque.
Oui,
Et
c'est
moi, je
sûr.
peux comprendre que les gens n'aient pas envie de prendre ce risque. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais d'un autre côté, les mecs sont là parce qu'ils en ont besoin, quoi. L'idée, c'est vraiment, si le projet te convainc, est-ce que tu as envie de prendre le risque de financer un jeu qui va te plaire? C'est la seule question qu'il faut te poser. Ensuite, même par rapport à Double Fine, Tim Schafer a donc donné, à titre de comparaison, les budgets pour certains jeux qu'il a fait, hein. Et en de Tentacle, c'est 600 000 dollars. D'époque, hein, parce qu'il y a eu l'inflation depuis, hein. Full Throttle, c'est 1 500 000 dollars. Hein? Ajouter l'inflation aussi, encore une fois. Grim Fandango, 3 millions de dollars. Donc, vous voyez, de ce qu'ils ont demandé, c'était 400 000 dollars. Alors, moi, je veux bien que depuis, grâce aux outils de développement, faire un Day of the Tentacle, etc., ça coûterait peut-être moins cher parce que il y a les outils, etc. Mais je suis pas loin dans l'idée de penser qu'ils ont quand même investi et aussi une partie de leurs économies dedans. Hein. Donc, ok, là, ils ont 1 500 000 dollars, c'est bien passé. Mais franchement, à 400 000 dollars, moi, je suis pas sûr qu'on aurait eu un jeu fantastique. Hein.
Donc après, ce qui est intéressant, c'est que si les studios de développement comme Double Fine, donc des studios qui sont pas petits, hein, se mettent sur Kickstarter, c'est alors ce que dit Tim Schafer, c'est pour se libérer de l'influence des éditeurs. Alors on sait ce que ça a donné, hein, les éditeurs avec Tim Schafer, notamment c'est son petit accrochage avec Bobby Kotick de chez Activision. Donc c'est vrai que ça peut aussi l'aider lui en termes de liberté artistique et de sortir son jeu quand il sent qu'il est le mieux. Donc bon, après est-ce que c'est un modèle qui pourrait là encore libérer le jeu vidéo, mais aussi pas seulement le jeu vidéo indépendant, mais aussi le jeu vidéo plus mainstream, si on veut dire. C'est une question qui peut se poser aussi, ça peut être intéressant.
C'est une question qui peut se poser, mais moi ça j'y crois pas trop, hein. Très honnêtement. Là tu vois, le mec c'est Tim Schafer, il a Ron Gilbert avec lui et tout, ok, ouais. Il a $1,600,000, il va probablement dépasser les 2 millions, mais ça, je veux dire, ça c'est des petits projets que tu finances avec ça, hein. C'est pas...
Bien sûr.
Tu vas pas financer non plus des gros machins.
Oui,
bon,
non,
ok, des petits projets par rapport, j'entends bien, par rapport à la taille de Double Fine, quoi.
Ouais.
Parce que moi, je pense pas que Double Fine pourra se passer des éditeurs, hein. Vu la taille du studio, faut être clair, il y a une petite équipe qui va être mise là-dessus.
Ouais.
Ils vont faire un bon petit jeu, un bon petit point and click à l'ancienne. Ok, mm-hmm. Ça c'est cool. Mais ils ont toujours besoin d'éditeurs derrière pour financer les gros projets, etc., quoi.
Ouais.
Et en tout cas, en l'état de ce qu'est le financement aujourd'hui, c'est clairement pas assez popularisé pour permettre de financer, je sais pas, ouais. Moi, pour faire plaisir à un certain Julot, à un certain Shenmue, voilà, tu vois le truc,
ouais.
Quoi. C'est pas le même ordre de grandeur, quoi.
Alors après, je sais pas si Yu Suzuki un jour arrive sur Kickstarter pour financer Shenmue 3. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on aurait aussi une levée de fonds assez assez massive. Mais bon, ça reste de l'utopie.
Ouais. Alors ça, tu vois, par exemple, mais ça c'est mon avis personnel. Il n'est pas question, même si j'adore Sega. Hein, je suis un fanboy Sega convaincu. Y a pas de souci. bon, en même temps, c'est un peu l'ancien Sega parce que le nouveau, bon,
ouais.
Voilà. Mais enfin, non pas que Sega soit un mauvais éditeur, bien au contraire, mais c'est plus le même Sega. Enfin bref, ce que je voulais dire par là, c'est que il n'est pas question que je donne un seul centime à un éditeur.
Ouais.
Parce que moi, c'est un truc, ça je le vois venir gros comme une maison. C'est genre, est-ce que les studios qui vont commencer à faire une levée de fonds pour peut-être convaincre les éditeurs de financer un projet, etc. Je ne verserai pas un seul copec s'il y a les éditeurs dans l'affaire.
Ouais.
Parce que, mais ça c'est mon côté indépendant, etc. Mon argent, je préfère le réserver pour les studios qui sont indépendants et qui ont besoin de cet argent pour financer leur jeu. Tu bosses avec un éditeur, bah écoute Coco, démerde-toi avec l'éditeur.
Ouais.
Après, peut-être qu'il y aura des gens qui accepteront, mais moi personnellement, c'est pas ma philosophie du truc, quoi.
Après, je sais pas s'il est envisageable de voir en fait une production jumelée Kickstarter et éditeur. Alors avec un, mettons 90% non, de l'éditeur et 10% du... de Kickstarter.
Alors, en fait, j'avais regardé un peu les conditions, etc., sur Kickstarter, et il me semble pas avoir vu, en tout cas, de trucs qui spécifiaient que oui, il fallait pas qu'un éditeur soit dans l'affaire, etc.
Ouais.
Le truc, c'est que c'est tellement éloigné de la philosophie de Kickstarter que, parce que voilà, Kickstarter, c'est vrai. C'est vraiment des projets indés, etc., quoi, ça paraît tellement éloigné de cette philosophie-là que, franchement, ça, pour moi, ça trahirait un peu la philosophie du truc, quoi, mais enfin, bref, c'est à voir.
Ouais.
Mais bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, bon, du coup, ça a éveillé des appétits, n'est-ce pas, chez les autres développeurs. Et du coup, par exemple, là, cette semaine, on a eu Obsidian. Je précise, hein, pour ceux qui ne sauraient pas qui sont les petits gars d'Obsidian. Donc, Obsidian, ce sont des anciens de Black Isle, Baldur's Gate 2, Planescape Torment, que des gros jeux fin des années 90, début 2000, vraiment un studio culte. C'est aussi Troika, donc Troika, C'est vampire, c'est Arcanum, Engrenage et Sortilège, enfin bref, vraiment du lourd. Et donc Obsidian, donc ce studio qui aussi fait récemment Alpha Protocol,
Dungeon
enfin
Siege 3
vraiment,
aussi cet été.
ouais, Dungeon Siege 3 c'était eux, donc vraiment des bons jeux. Enfin, je crois que t'avais pas trop aimé Dungeon Siege 3 par contre.
Non, c'est il est juste moyen. Mais sinon, c'est pas mal, hein.
En tout
C'est
cas,
pas un grand jeu, quoi, c'est tout.
enfin, disons que quand ils cherchent à raconter des histoires au lieu de faire un hack and slash, ils se débrouillent bien.
Ouais.
Parce que vraiment, la qualité première de ce studio-là, c'est le storytelling, c'est l'écriture, la qualité d'écriture des dialogues, etc. Et donc, le boss d'Obsidian, Chris Avellone, a lancé une initiative sur son forum et Twitter. Donc, il a dit aux gens, qu'est-ce qui vous intéresserait de... Quel projet de jeu Obsidian vous intéresserait. Alors bon, moi ça m'évoque deux réflexions là.
Ouais.
D'une part, bon, c'est je trouve ça très intéressant. Ça veut dire que vraiment ça montre bien que ce succès de Double Fine réveille quelque chose quoi chez les autres studios. Quelque chose qui pourrait vraiment au moins changer à long terme l'industrie. En tout cas, donner une plus grosse marge de manœuvre au studio. Mais d'autre part, quand même, là, moi, il y a un truc qui me dérange fondamentalement, là. C'est comme je l'expliquais tout à l'heure, pour moi, le mec, c'est pas aux joueurs de dire ce qu'ils veulent. C'est aux mecs de nous dire ce qu'ils veulent, où ils
Ils
veulent
veulent faire,
aller,
ouais.
et nous montrer. Parce que là, pour le coup, je vois ce qui se passe avec Obsidian. Je me dis, bon, non, là, ça va pas. Parce que pour le coup, avec quoi on s'est retrouvé? Alors, en gros, on a des mecs qui demandent des suites.
Ah, d'accord.
Des suites que le, dont, dont, alors que le studio n'a pas les licences,
Ouais, que le
hein.
développeur peut pas faire, de
Parce que
manière.
là, en gros, ça demande quoi? Ça demande pas Escaptorman 2.
Ouais.
Ça demande du Arcanum 2. Ça demande du Baldur's Gate 3. Enfin, bref. Ça demande des suites, quoi. Voilà, moi déjà, moi tu vois, quand je vois ça, ça me rend dépressif. J'ai envie de pleurer quand je vois ça, parce que, attends,
Ouais,
les
un peu
mecs,
dommage.
ils ont l'occasion de s'éclater,
Ouais.
de laisser exploser leur créativité, et qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande des putains de suites, bordel, non mais sérieux les gens, quoi, merde. Non mais je peux comprendre, tu vois, que moi aussi j'aimerais une suite à Baldur's Gate. Mais qu'Obsidian se démerde et négocie avec les ayants droit. Là, c'est un projet Kickstarter. La philosophie du truc, c'est de permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent. Bon, après, c'est un peu la faute d'Obsidian. C'est pour ça aussi que, voilà, je pense que c'est pas bon de demander aux joueurs ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est aussi la faute d'Obsidian, quoi. Là, en gros, ils arrivent, ils demandent aux gens ce qu'ils veulent. Bah, évidemment, les mecs, ils vont dire Baldur's Gate 3, machin truc,
Bah oui,
bidule,
c'est
quoi.
sûr. Après, fallait peut-être réduire un petit peu la question dans le sens quel genre de jeu vous aimeriez ou quel genre d'univers vous aimeriez voir dans notre prochain projet. Ça aurait pu réduire la question et pas avoir ce genre de problème-là, quoi.
Voilà.
Donc ils ont peut-être mal posé la question.
C'est vraiment, oui, enfin c'est vraiment. D'autant plus que bon, là, le truc c'est qu'en plus, tu vois bien en regardant ça que les joueurs n'ont pas l'habitude de suivre ce genre de projet, etc. quoi. Parce que je suis persuadé que même s'il y en a une grosse majorité dans le jeu, je pense qu'ils veulent vraiment une suite à Planescape Torment, etc. Je pense qu'il y en a quand même une partie qui se disent. Qui disent pas fondamentalement qu'ils veulent du Planescape Torment, mais qui veulent en tout cas quelque chose qui ressemble à ça. Le problème, c'est qu'ils savent pas le dire. Et du coup, tu te retrouves avec un certain nombre de gens qui n'attendent pas forcément une suite directe, mais qui disent ça. Et du coup, quand le développeur il dit ça, bah voilà quoi. En plus, tu veux, même par rapport quand tu compares avec des projets où il y a vraiment la participation de la communauté, etc., genre Project Cars. Dont je vous avais parlé ici, et qui donc là pour le coup c'est vraiment un projet où vous êtes actionnaire, où vous participez, où comme vous êtes actionnaire, vous avez votre mot à dire dans le développement, etc. Et je veux dire, même dans Project Cars, les mecs à la base, et ils sont venus, ils ont dit, nous on veut faire une simulation, aidez-nous, une simulation automobile, aidez-nous à faire cette simulation. Ça veut dire que déjà, même dans un jeu aussi ouvert que Project Cars, les mecs ont une ligne directrice, tu vois. Ça part pas non plus dans tous les sens.
Bien sûr.
L'objectif, c'est clairement faire une simulation. Les joueurs qui participent au truc, c'est un peu comme dans Minecraft, c'est un peu des bêta-testeurs, si tu veux. T'as des professionnels de la conduite, etc., qui participent aux bêta-tests. Là, il y a une ligne clairement définie. Et là, pour moi, pourquoi Obsidian est dans l'erreur? Parce que là, il n'y a aucune ligne directrice, quoi. C'est, ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu la fête du slip, quoi. C'est, il va de sa petite idée, de son petit truc, et finalement, ça donne un tout totalement bordélique, quoi.
Ouais. Bon, bah, de toute façon, on suivra un petit peu l'affaire, comment ça se concrétise un petit peu, hein, si jamais Obsidian se met sur Kickstarter. On en reparlera très certainement.
Ouais, d'ailleurs, précision, là, le chiffre, c'est $1,600,000, là, donc c'est... ça monte.
Ouais, pour Double Fine. Hein.
Bon, ensuite, on va passer à... Quantic Dream. Ouais. Et oui, David Cage menace de quitter la France. Il a pris son plein, tu vois, il a fait « Bouge pas, hein, laissez-moi mon aide, s'il vous plaît !»
Alors là, c'est pas vraiment David Cage, c'est le co-dirigeant du studio, donc Guillaume de Fondomière, dont on avait parlé en 2011 pour ses nombreuses sorties contre le marché de l'occasion.
Ouais.
Donc là, en fait, il menace en fait la délocalisation de Quantic Dream, donc en dehors de la France. Pourquoi ? Parce que en ce moment est contesté ce qu'on appelle le crédit d'impôt jeux vidéo. Donc en fait, qui permettait à Quantic Dream de rester en France et de produire son jeu en France, parce qu'il y avait des conditions préférentielles au niveau des impôts.
Ouais, c'était 20% du développement qui était refinancé, etc.
C'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà très bien en Amérique du Nord et donc avait été mis en place donc de façon un tout petit peu plus contraignante en France et qui menace d'être en fait arrêté. Et donc du coup, le boss de Quantic Dream dit que si on n'a plus ça, on ira autre part. Et donc bon, j'avais envie d'en parler quand même parce que c'est vrai que on oublie qu'on a quand même des studios de développement en France et ça serait dommage de les perdre. On en a déjà assez peu.
Après, bon, moi, il y a quand même une philosophie, parce que, en gros, faut expliquer, c'est la, alors je sais plus si c'est la Commission européenne, enfin, c'est au niveau de l'Europe qu'il y a un problème, quoi.
Ouais.
Et, le truc, c'est, moi, quelque part, moi, je peux comprendre la philosophie du truc, parce que, fondamentalement, on est d'accord, c'est, accorder des aides comme ça au studio de développement, c'est clairement du dumping, hein. On va arrêter de se cacher derrière son petit doigt, là, c'est du dumping. Et moi, fondamentalement, ça ne choque pas qu'on dise que qu'il y ait du dumping comme ça, c'est pas normal, c'est mauvais pour l'économie, etc. Là où ça me pose problème, si tu veux, c'est que une fois qu'on a dit ça, ok, mais on vit pas dans un monde de bisounours, quoi. Alors, moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut pas accorder d'aide aux studios, etc. Mais à ce moment-là, elles sont où les contre-mesures envers les pays qui font du dumping?
Ouais.
Moi, je veux bien qu'on me dise, oui, il y a un souci, il faut pas donner de l'argent comme ça. Mais à ce moment-là, il va peut-être falloir à un moment donné, je sais pas, moi, taxer tous les jeux qui sont produits au Canada, par exemple.
Ouais. Ah ouais.
Ça fera pas plaisir aux joueurs, je suis d'accord, hein, moi le premier, mais à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Tu peux pas dire, on va pas faire de dumping alors que les autres ils le font, quoi. À un moment donné, voilà.
Ouais.
Donc à un moment donné, donc soit tu continues à faire du dumping.
Alors le dumping, les gens, c'est des pratiques commerciales qui sont contre la concurrence, en fait, contre la loi de la concurrence. Voilà, c'est pour ceux qui connaissaient pas le mot.
Donc clairement au Canada, c'est ce qu'ils font. Ah bah ok. Ok, vous allez au Canada, bah écoutez, tous les studios qui produisent des trucs au Canada, bah on va les taxer à l'entrée de l'Europe, quoi.
Mm-hmm.
C'est moi, il y a que comme ça que je vois, c'est la seule solution alternative, quoi. Et ça, le problème, c'est qu'ils en veulent pas en Europe. Il faut faire quelque chose, quoi. Mm. C'est parce que si on fait rien, là, clairement, les studios, ils vont se barrer, ils ont raison, quoi. C'est, je veux dire, si tu peux te barrer au Canada, payer moins cher et
et faire ce
que
tu as envie
de faire. On va plus avoir de développeurs en Europe, quoi. Et en
ouais,
plus,
non,
on est d'autant plus cons en Europe que c'est nous qui la fournissons, la manœuvre. On investit, on paye des fortunes pour former nos jeunes. À la sortie, ils ne trouvent pas de taf en Europe et ils s'exportent au Canada. Bon, à un moment donné, il va peut-être falloir faire quelque chose, quoi.
Ouais. Donc, bon, c'est vrai que cette mesure, alors elle n'a pas encore été mise en œuvre, mais a priori, le crédit d'impôt a été gelé depuis octobre 2011, donc ça fait déjà un moment. Donc, espérons quand même qu'on trouve une alternative, parce que c'est vrai que moi, je me vois pas perdre Ubisoft Montpellier, par exemple. Ubisoft Montpellier, c'est Rayman Origins. Et Rayman Origins, donc on aura l'occasion d'en parler un jour. S'il n'y avait pas eu le crédit d'impôt, je sais pas où est-ce qu'il aurait été fait. Alors, à Toronto, peut-être. Mais Toronto ou Montréal, c'est Assassin's Creed. Donc, je sais pas. Moi, j'aimerais quand même garder cette fierté d'avoir des studios français qui font des putains de jeux, quoi. Donc voilà, moi je croise les doigts quand même pour qu'on ait un compromis à trouver sur ce sujet-là, voilà.
Donc maintenant, écoutez, on va passer aux dates de sortie et
ouais.
On va commencer, mon cher Morgan, par les news. Et cette news, c'est Diablo 3.
Il a été dit. Nous trouverions un nouveau commencement. Mais l'ombre revient s'étendre sur notre monde. Et d'amers vents portent la puanteur de la terreur. Les gens prient, ils cherchent la force, un guide. Ils devraient prier pour une mort rapide. Car j'ai vu ce que cachent les ténèbres.
Diablo 3, ouais, ça fait un moment qu'on l'attend, lui aussi, mais on est habitué avec Blizzard. Blizzard, on est aussi habitué avec ses dates de sortie un petit peu floues. Donc là, on a la sortie la plus floue de jamais donnée depuis un moment. On sait qu'à peu près que Diablo 3 va sortir entre le 1er avril et le 30 juin 2012.
Alors c'est sûr, c'est pas un poisson, hein.
Voilà. Donc bon, c'est vrai que, alors si on se rappelle, StarCraft 2 en 2010 était sorti en juillet,
ouais.
Donc ça collerait pas trop mal avec l'esprit de sortir le jeu vers l'été, mettons vers juin. Moi personnellement, ça m'étonnerait pas du tout.
Ouais.
Surtout que de toute manière, l'épée ne tienne pas de vacances.
Ouais. Les vacances pour les faibles.
Donc voilà, donc moi ça m'est... Enfin en tout cas, les vacances d'été avec le soleil, les PCistes n'en prennent pas, ça se sait. Donc non, mais enfin moi ça m'étonne pas du tout. Je vois pas trop Diablo 3 sortir vers avril, mais après c'est... Enfin voilà, en tout cas on a une précision, on sait que Diablo 3 sortira en 2012 et ça c'est quand même une bonne nouvelle.
Ouais, parce qu'on a vu quand même pas mal d'inquiétudes récemment, parce qu'ils avaient dû retout changer dans la bêta, etc. Bon, bon, apparemment la bêta se passe bien. Alors le truc, c'est que apparemment il y a un autre jeu Blizzard qui est prévu donc pour cette année. Alors les gens, ils sont déjà à dire le Swarm arrive, etc.
Ça peut très bien être la nouvelle extension de WoW.
Oui, non, mais je suis persuadé, personnellement, c'est l'extension de WoW. Non, mais parce que, attends, pour ça clair, la bêta de la prochaine extension StarCraft, elle a même pas commencé. On sait, et quand on sait avec quelle minutie Blizzard suit ses bêtas, sachant qu'elle a pas commencé maintenant, je crois pas une seule seconde, ça sera en 2012. Hein. Après, bon, vous croyez-moi ou pas, vous faites ce que vous voulez, venez pas pleurer après quand vous verrez que StarCraft 2, la prochaine extension sort pas en 2012. Hein.
Donc enfin moi c'est vrai que bon j'ai appris à calmer mes ardeurs du côté de StarCraft 2, la nouvelle extension de StarCraft 2. Et c'est vrai que ça m'étonnerait pas du tout que ça soit l'extension de WoW vers la fin d'année, puisqu'on sait qu'en plus les extensions de WoW sortent toujours vers la fin d'année. Donc pourquoi pas?
Ou alors peut-être, attends, ça se trouve, un projet surprise.
Tu crois pas?
Surprise!
Non, ce projet surprise, faudrait au moins qu'il y ait une BlizzCon pour le présenter. Et
Ouais, c'est
donc
vrai.
je crois pas.
Ensuite, alors là, je crois, Morgan, franchement, je suis impressionné, c'était une news indispensable.
Ouais.
Kinect Star Wars, le
C'est clair.
3 avril. Ah, oh, on
Ouais.
l'attendait vachement.
C'est clair. Non, mais je pense qu'ils ont profité de la ressortie de Star Wars épisode 1 au cinéma en 3D pour communiquer sur Kinect Star Wars, donc je pense que c'est juste pour ça. Donc ça sortira aux États-Unis le 3 avril 2012.
Tu voulais en parler juste pour parler de la pub, en fait, c'est ça?
C'est ça. Non, je pense que c'est pas la peine de si vous l'avez déjà vu au cinéma, c'est pas la peine d'y retourner pour le voir en 3D. Mais c'est vrai que pourquoi pas pour ceux qui ont jamais vu un Star Wars au cinéma. Pourquoi pas. Après, j'en sais rien. Mais bon, vous savez ce que je pense de la 3D et que je ne vous encouragerai jamais à aller voir un film en 3D. Voilà.
Alors Twisted Metal le 7 mars aussi. Bon,
Ouais. Ouais,
après,
puisqu'on avait dit la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, que Twisted
oui.
Metal sortirait pas en février. Enfin, avait été repoussé et on savait pas quand. Et donc maintenant on sait, c'est le 7 mars qu'il arrivera en
Ok.
Europe. Voilà.
Alors la pseudo-suite qui n'en est pas vraiment une d'Alan Wake, le 22 février.
Le 22 février, oui, Alan Wake American Nightmare, qui sortira donc sur XBLA et sur Steam, mais je suis pas sûr que ça soit la même date, pour 1200 points Microsoft, donc ça fait une quinzaine d'euros à peu près. À savoir que c'est pas la suite. Alors, ça, on sait pas en fait si c'est la suite directe d'Alan Wake. On sait que ça sera au moins un spin-off. Avec beaucoup plus d'action et un mode une sorte de mode horde où il faut se battre en fait jusqu'aux premières lueurs du jour. Voilà.
Super intéressant.
Bah écoute, je t'en parlerai à la sortie pour voir si ça respecte un petit peu le jeu de base.
Et enfin pour finir, ça c'est moi qui tenais à vous en parler, c'est Hoken. On a enfin eu des news Hoken. Et un peu comme Skyrim qui se l'a pété avec son 11-11-11. Eh bien écoute, c'est la dernière fois pour ce siècle, donc ils en
Ouais.
profitent. Hoken sortira le 12-12-12. Eh oui, c'est la fête. Donc Hoken, qu'est-ce que c'est? Hoken, c'est un jeu de méca, et moi j'adore les mécas, donc forcément je voulais vous en parler. Donc c'est un jeu de méca, de bataille en arène, etc. Donc il sort le 12-12-12, et aussi on a appris qu'ils adopteraient un modèle free-to-play. Donc intéressant, moi j'attends de voir, sachant que leur modèle aussi c'est un peu League of Legends, etc. Donc écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en plus le jeu est magnifique, donc vivement.
Ouais.
Et ben voilà, c'en est tout pour l'actualité cette semaine, et maintenant je vais vous parler de mon jeu du moment, à savoir Avadon de Black Fortress. Abaddon The Black Fortress, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Abaddon The Black Fortress, c'est un jeu d'un petit studio indépendant qui ne paye pas mine, à savoir Spiderweb Software. Alors, c'est un studio assez atypique, pourquoi? Parce que c'est un studio, déjà, un studio indépendant, mais qui sort ses jeux sur Mac en premier.
D'accord.
C'est vraiment très atypique.
C'est vrai, ouais.
Vraiment. Et qui ensuite les porte sur sur Windows. Alors, en 2011, donc, ils ont porté là leur jeu, donc Abaddon The Black Fortress. Sachant qu'ils ont sorti plein, Geneforge, etc. Je vous fais pas la liste, allez sur le site de Spiderweb. Et, alors, c'est quoi la spécificité des RPG Spiderweb Software? Parce que c'est un RPG. Bah, en l'occurrence, ce sont des RPG old school en 3D isométrique, en tour par tour. Alors, bon, je vais être clair là-dessus. Abaddon The Black Fortress, au niveau des mécaniques, de l'interface, etc., c'est clairement pas un jeu qui va révolutionner le genre, quoi. Je veux dire, le tour par tour, c'est vraiment du tour par tour classique, avec un damier au niveau des combats, etc. Le système de jeu, bon, il est stratégique, il est intéressant, mais fondamentalement, je veux dire, rien de superbement innovant, etc. Mais alors tu me diras, mais Tyran, c'est tout pourri ton jeu, pourquoi t'en parles pas? En plus, le jeu il est moche. C'est pas qu'il est moche, enfin. Disons que c'est l'un des premiers jeux de Spiderweb Software qui est à peu près potable graphiquement, quoi. Mais clairement, c'est pas un jeu qui va vous flatter la rétine. C'est assez terne, ça pète pas de couleurs, etc. Donc là, dit comme ça, je pense que j'ai fait fuir à peu près tous nos auditeurs.
Ouais, mais je suis sûr que tu vas nous dire des trucs qui vont relever le niveau, là.
Ouais, mais attends, avant, je vais quand même en rajouter une couche. bon, parce qu'en plus, il y a d'autres défauts, genre, l'interface, il y a des trucs totalement casse-couilles, incohérents, qui te gênent quand tu joues. Genre, tu vois, t'appuies sur la touche I pour ouvrir l'inventaire, et la logique voudrait que tu appuies sur la touche I pour fermer.
Ouais.
Bah non, il faut appuyer sur échappe. Enfin bref, t'as plein de trucs comme ça qui sont dans l'ergonomie, qui sont chiants. Enfin, il y a plein de trucs qui sont énervants au niveau de l'ergonomie. Et en plus le setting est assez classique, quoi. Finalement, c'est des elfes, c'est des dragons, c'est des orques. Alors vraiment là vous voyez, je l'ai pourri à un point où je pense que vous dites non franchement c'est pas possible, il a pas pu aimer le jeu, quoi, c'est une catastrophe. Et ben non, j'ai sûr kiffé ce jeu. Et pourquoi? Parce que la grande force de Spiderweb ce soir, c'est l'écriture. Et c'est l'écriture de leur jeu. Mais putain, mais une écriture magnifique. Alors déjà, pourquoi j'ai accroché dès les premières minutes à ce jeu? Déjà, même si au niveau du background c'est d'Heroic Fantasy, c'est pas un peck original, là où c'est original, c'est qui tu vas jouer. Parce que dans Abaddon The Black Fortress, en gros, tu vas jouer une nouvelle suivante du pacte. Alors qu'est-ce que c'est le pacte? En fait, c'est une alliance qui s'est rebellée il y a très longtemps contre un empire et qui a gagné, quoi. Et maintenant, c'est eux qui font leur loi, quoi. C'est pas genre tu vas sauver le monde. Non. Toi, t'es la police de la pensée qui va aller contrôler les gens et qui, en gros, si ils filent pas droit, tu vois, tu vas tous les buter. En gros, c'est ça. C'est vraiment, t'es un winner, t'as gagné, t'es arrogant, les mecs, ils doivent t'obéir parce que tu es ce qu'on appelle une main d'Avadon et les mains d'Avadon, on déconne pas avec elles, tu vois. Alors, pour vous présenter un peu qu'est-ce que c'est Avadon. Avadon, en gros, c'est une forteresse de la frontière du pacte qui est chargée de protéger le pacte contre ses ennemis, tout simplement. Et donc, dans Avadon, il y a plusieurs factions. Donc, tu as les mains qui sont vraiment la force de frappe, c'est ceux qu'on envoie sur le terrain, qui enquêtent, et s'il y a quelque chose à nettoyer, ils nettoient, quoi. C'est vraiment, je vais pas dire des exterminateurs, mais pas loin. tu as les yeux. C'est voilà, c'est ceux qui sont sur le terrain, ceux qui surveillent. Tu as le cœur, ceux qui tiennent Avadon, ce sont les chefs, et enfin, Avadon, tu as surtout un personnage qui est absolument mythique et culte, et ce personnage, c'est Redbird. Alors, Redbird, en gros, c'est le mec, ça fait 150 ans qu'il est là, enfin, je dis 150 ans, mais je sais plus combien, mais en gros, c'est, il est très vieux, et bizarrement, il est très jeune. C'est le mec, tu sens qu'il y a la magie noire derrière qui le maintient jeune, etc. C'est le mec, depuis qu'il est là, il y a eu des centaines de tentatives pour le buter, il y en a pas un qui a été foutu de réussir à le zigouiller. Et c'est le mec, enfin, qui fait flipper tout le monde, dans, que ce soit à Vadon et à l'extérieur, quoi. C'est le mec, tu le respectes, mais tu sens bien qu'il va pas falloir trop déconner avec lui, parce que tu vas finir dans un cercueil si tu chies pas droit, quoi. Et voilà, là je voyais un peu, je commence à vous mettre dans l'ambiance et tout, c'est super. Mm. Et donc, là vient donc l'introduction du jeu, donc vous êtes un nouvel arrivant, alors vous avez le choix, hein, vous avez plusieurs classes à choisir, en fait, au départ du jeu. Et l'idée, donc, c'est vous êtes une nouvelle arrivante à Vadon, et le truc c'est que, dès que vous arrivez à Vadon, c'est déjà le bordel, parce qu'apparemment, il y a des prisonniers qui sont évadés, il y a une expérience qui apparemment qui a foutu le bordel, c'est le bordel partout dans la forteresse. Enfin bref, c'est et en gros, vous êtes envoyé dans les sous-sols d'Avadon, à peine arrivé, franchement, pour enquêter. Et pour ça, donc, on vous met des suivants, etc., qui vont vous aider. Et justement, à propos des suivants, c'est une des forces d'Avadon. C'est un peu comme dans Mass Effect, tu vois, ses compagnons, tu vas créer une relation vraiment très forte avec eux, quoi. Mm-hmm. Chaque suivant a un background très particulier, c'est-à-dire qu'ils sont tous entre deux eaux vis-à-vis de la politique d'Avadon, quoi.
D'accord.
C'est d'ailleurs très bizarre. Tu vois ça, pour peu que tu sois un peu futuriste, tu dis, alors attends, qu'on m'explique pourquoi on m'a mis tous les traîtres d'Avadon dans mon groupe. Il y a un truc qui cloche, là. Donc, en gros, c'est des mecs, ils trouvent, quelque part, ils trouvent vraiment la cause d'Avadon noble, mais ils ont tous été délaissés à un moment ou à un autre, quoi.
D'accord.
Et l'idée, c'est que, donc tu vas développer ta relation avec eux, et pour chaque perso, un peu comme dans les jeux Bioware de la Belle Époque ou dans Mass Effect, tu vas avoir une quête perso pour chacun d'entre eux. Et cette quête va vraiment créer des liens qui vont fortement déterminer le déroulement du jeu et surtout sa fin. Donc bon, vraiment, c'est un jeu, sa grande force c'est l'écriture et surtout sa grande force, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais côté. C'est ok, tu joues des connards. Mm-hmm. Non, mais très clairement, hein, je veux dire, c'est tu joues la police de la pensée, quoi. Faut être très clair là-dessus.
Ouais.
C'est une dictature, quoi. Tu vis dans une dictature. Mais d'un autre côté, les autres en face, ils sont pas mieux. Hein. C'est ça le truc, quoi. C'est voilà. Quand on t'envoie, il y a un proverbe que j'adore dans ce jeu, c'est dès que Avadon pose son regard quelque part, en général, il y a pas grand-chose qui subsiste, quoi. Parce qu'ils vont au fond du fond, et forcément, comme tout le monde est Avadon, il y a toujours quelqu'un à tuer, quoi. ils butent tout le monde, quoi. Dès qu'ils arrivent quelque part, c'est une catastrophe, quoi. Ouais. Et donc, le truc, c'est que tu arrives à une période où le pacte est en train de s'affaiblir. Mm-hmm. Tu es dans une période où tu sens que le pacte est en train de vaciller, et toi, là-dedans, il va falloir que tu fasses un choix, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester fidèle au pacte? Est-ce que tu vas rester entre deux eaux, indécis? Qu'est-ce que tu vas faire? Ou est-ce que tu vas te rebeller? Est-ce que tu vas détruire la forteresse? C'est toi qui as le destin d'Avadon en main, et c'est toi qui vas décider ce qui va arriver. Et c'est ça qui est vachement intéressant. C'est, voilà, on te donne énormément de possibilités, et à toi de choisir ce qui va arriver.
D'accord. Et donc, en fait, il y a des embranchements au niveau du scénario, il y a plusieurs fins possibles, donc tu me disais?
Alors, les embranchements, comment dire, ils vont surtout se dérouler au niveau des quêtes spécifiques aux compagnons.
Mmh.
Parce que finalement, je veux dire, c'est pas comme dans Mass Effect, tu vois, où les compagnons sont présentés sous leur meilleur jour.
Ouais.
Ils sont très égoïstes quelque part. Et t'as pas forcément envie de les aider non plus. Et donc, c'est là où c'est très intéressant, quoi. C'est déjà, tu peux choisir de les aider ou pas. Et même si tu les aides, ça veut pas dire forcément que tu vas agir comme ils veulent que tu agisses, quoi. Tu vas pas forcément, ok, je t'aide, mais c'est pas pour ça que on est les meilleurs potes de la Terre, que c'est la fête, quoi. Voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, tu joues un personnage qui est humain, quoi. Tu joues un personnage qui est vraiment face à des dilemmes moraux, et moi j'adore ça, mais des dilemmes moraux inextricables, quoi. Parce que, ok, tu joues pas des anges, mais les mecs en face, c'est pas des anges non plus, et quelque part, en général, quand on t'en voit là, c'est aussi parce qu'on t'a demandé ton aide, hein. Genre, à un moment donné, il y a des locaux qui te demandent d'aller dans leur village pour buter une espèce de bestiole dont tu doutes qu'elle a été manipulée par la magie, et leur seigneur, il fait rien pour les aider, quoi. Clairement, ils s'en lavent les mains, quoi. Donc, pour si Abaddon s'en occupe pas, qui va s'en occuper, quoi. Le truc, c'est bon, forcément, tu vas découvrir des trucs par rapport à cette quête-là, et ensuite, ça va aller de plus en plus loin, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, tu vas découvrir que, fondamentalement, le rôle d'Abaddon, il est noble. Franchement, c'est quelque chose de très noble. Mais le problème, c'est que tu es dans une période tellement trouble que t'en es à user de méthodes qui sont très discutables, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est jusqu'où tu es prêt à aller pour préserver ta nation, pour préserver la patrie, pour préserver l'ordre, jusqu'où tu es prêt à aller, quoi.
D'accord.
Est-ce qu'il vaut mieux le chaos, finalement, que l'ordre? C'est tout l'enjeu de ce jeu, quoi. C'est passionnant. Et soyez assurés, en tout cas, que si vous jouez à ce jeu-là, vous n'allez pas vous retrouver avec des solutions binaires à Mass Effect, gentil ou méchant, quoi. C'est toujours du gris, mais vraiment, quoi. Il y a aucune solution évidente là-dedans. En plus, les protagonistes qui sont en face, je veux dire, ils vous feront pas de cadeaux. Même ceux parmi vos alliés, ils auront une fâcheuse tendance à vous traiter comme de la merde. Bon, en même temps, vous les traitez comme de la merde aussi, hein. Donc,
ils vous le rendent bien.
Ouais. Voilà. Ça, c'est un truc que j'adore. Par exemple, il y a une scène avec la chef qui fait écoute, je t'envoie en mission là-bas parce que. Et en gros, du plus petit paysan au plus haut seigneur, je veux que tu leur fasses comprendre qui est le boss, quoi. Les boss, c'est Abaddon, c'est toi le boss, et s'ils te traitent comme de la merde, il faut les remettre à l'ordre. Tu remets de l'ordre là-dedans, quoi.
Okay.
Et c'est ça que j'adore dans ce jeu. Tu joues pas un héros, quoi. T'es pas un héros, c'est pas vrai, t'es pas un héros. T'es un mec qui s'est retrouvé là, parce que il avait des idéaux, etc. Et tes idéaux, ils se retrouvent confrontés à la réalité du truc, quoi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et est-ce que tes idéaux, tu vas les garder? Ou est-ce que finalement tu vas les regarder comme ça? Et en plus, c'est très cruel, tu vois, parce que vraiment, quand tout le long du jeu, tu sens que Abaddon, quelque part, est regardé vraiment de très. C'est quelque chose presque intouchable, quoi. Les mecs, quand ils rentrent là-dedans, t'as l'impression vraiment ils ont un respect pour ça. Et c'est aussi ça qui est intéressant avec les compagnons, c'est tu vas voir finalement pourquoi ils sont éloignés d'Abaddon, etc., quoi. Et pourquoi eux aussi, finalement, tout comme toi, joueur, ils auront un choix à faire, quoi, au bout du bout. Et voilà. Et ces choix vont se retrouver confrontés au tien, quoi. Et c'est génial. D'autant plus que c'est toi qui auras influé ces choix par les choix que tu aurais même toi fait, etc. Donc, bref, c'est vraiment passionnant. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien là parce que là je pars en live, mais c'est vraiment. Enfin, moi, c'est un jeu qui m'a passionné, quoi.
D'accord. Et il y a moyen, j'imagine que tu sais grosso modo quel compagnon. Quand tu reconnais un compagnon quand tu le rencontres la première fois, est-ce que c'est possible de refuser de l'avoir dans ton groupe?
Le truc, c'est que, donc ça, précision au niveau du gameplay, tu ne peux pas prendre plus de 3 personnages dans ton groupe. Non mais
D'accord.
tous les compagnons que tu vas les rencontrer, parce que ils ont été mis sous tes ordres, tout simplement. T'es pas obligé de les prendre dans ton groupe, mais par contre, et même par exemple quand il y a la quête pour tel ou tel compagnon qui va se déclencher, t'es pas obligé d'y aller, hein. Tu peux dire,
D'accord.
bah, écoute, moi il me casse les couilles celui-là, hein.
Moi.
C'est franchement, ils pensent qu'à sa gueule et tout, et honnêtement, ils pensent qu'à leur gueule.
D'accord.
Qui se débrouille, quoi.
Est-ce qu'il y a beaucoup de quêtes secondaires? Ah, oui, t'as pas parlé de durée de vie d'ailleurs. Est-ce que au niveau de la quête principale, si tu fais que la quête principale, c'est long ou
Alors attends, moi tu sais
Oui,
ma
vu que tu fais
tendance.
tout, tu fais tout toi de manière générale, donc
Alors si je me souviens, c'est une quarantaine d'heures.
Ok.
Donc c'est très respectable.
Ouais, c'est clair.
Bon, sachant que moi j'ai vraiment fait, je suis allé au bout du bout quoi. C'est donc
Ouais.
tout ce qui m'est tombé sur la fin. Alors moi j'étais à fond dans le rôle. Hein. C'est le truc, le délire, quand Avadon pour se regarder quelque part, il va au bout du bout. Je passe dans une zone, moi y a tout. Hein. Il y a aucun souci. Hein. Ça va avec ma philosophie. Hein.
Ok, donc beaucoup de quêtes secondaires.
Ouais, beaucoup de quêtes secondaires, des PNJ, enfin des dialogues très intéressants, que ce soit chez les gentils entre guillemets et méchants, enfin
Ouais.
quelle que soit la faction, de toute façon, t'inquiète pas, t'es un pion, hein, donc
Ouais.
no society. Donc c'est vraiment un jeu où il y a de la politique, où il y a du complot. Ou voilà quoi, rien de part et d'autre, rien n'est innocent quoi. C'est le pacte a des ennemis et les ennemis sont pas forcément gentils non plus quoi. Je veux dire, si le pacte s'est formé à la base, c'est parce qu'il y avait des mecs en face. Donc voilà, c'est tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir.
Ouais. Et au niveau de la rejouabilité, il y a quelque chose qui t'encourage à rejouer au jeu après l'avoir fini?
Bah oui, c'est tout simplement voir ce qui se passe si t'as pas fait certains choix quoi. C'est
Ouais.
tout simplement. C'est qu'est-ce qui se passe si j'aide pas ce compagnon-là, quels choix ils vont faire par rapport au mien, etc. quoi. C'est voilà, c'est très intéressant. Si j'ai suivi leur vie, qu'est-ce qui va se passer? Si je rejoins telle faction, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça l'intérêt. Bon, après, je te cache pas que par rapport à la fin du jeu, ça va être surtout textuel en fait, si tu veux.
Ouais.
C'est pas The Witcher 2 où il y a carrément un embranchement du jeu que tu vas rater quoi.
Ouais.
Il y a des zones, effectivement, peut-être des zones nouvelles que tu vas peut-être pas visiter, mais c'est pas des zones forcément gigantesques, etc. Mais à part ça, c'est pas The Witcher 2 où t'as carrément une moitié du jeu qui a été enlevée, et
Ouais.
voilà, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est en général, les quêtes des compagnons, par exemple, ça se passe sur de nouvelles maps, etc. Mais bon, en même temps, comme je le disais au début, les décors sont tellement génériques que c'est pas pour ça que tu vas y aller, quoi. C'est vraiment pour l'intérêt de savoir qu'est-ce qui se passe si tu fais cette quête, etc. quoi.
D'accord. Bon, des choses à rajouter?
Oui, voilà. Alors déjà, il y a un système de forge qui est vraiment sympathique. Il y a de système d'enchantement, etc. Et surtout, il y a un PNJ qui est culte dans ce jeu. C'est le forgeron. Alors c'est le mec, tu vois. Tu sais pas trop comment y arriver là. Il fait que de la merde, mais vraiment, pour moi, c'est un personnage culte. C'est le mec, à chaque fois que tu vas le voir, la première fois que tu vas le voir, tu dis, ouais, super, je vais récupérer un super item magique et tout. Il te file, je crois, les objets les plus inutiles que j'ai jamais vus dans un jeu de rôle, quoi. C'est absolument énorme. Donc, écoutez, comptez pas sur le forgeron local, pour vous aider. Faudra les forger vous-même, vos super items. Non mais en
C'est bien,
plus non mais par
ça
contre
encourage à forger, quoi.
et bon quand même je vais quand même insister un peu plus sur le gameplay. Par contre c'est pas un jeu facile. Hein. Je me suis beaucoup attardé sur l'histoire parce que vraiment c'est pour moi c'est le jeu a beaucoup de points faibles donc je voulais vraiment insister sur ce point fort là parce que pour moi c'est vraiment un point fort qui compense tout quoi. Je pense que j'ai su bien parler avec passion pour vous transmettre ma flamme. Mais il y a aussi un autre point fort c'est que vraiment les combats c'est vraiment des combats tactiques qui sont très intéressants, pas révolutionnaires, on est d'accord, mais ils sont très difficiles. Enfin, c'est pas. Enfin, non, j'exagère. Disons que la difficulté est bien dosée, quoi. Mais c'est pas un jeu où tu vas te balader les mains dans les poches, quoi. Et par contre, le dernier combat, et sans vous spoiler sur ce qu'il y aura au dernier combat, mais ouf. Ah ouais, c'est chaud quoi, c'est en plus moi je pense que c'est un combat qui est facile si tu t'y es préparé. Mais le problème c'est que à moins d'aller regarder une soluce, si tu n'es pas préparé à ce combat, c'est juste pas possible. Parce que le boss est quasi intuable, très clairement. C'est il est quasi intuable, mais bon, d'un autre côté, c'est toi qui as choisi de le tuer. Hein, donc,
ouais.
C'est parce que c'est ça qui est intéressant, c'est comme dans bon nombre de vieux jeux cool, tu ne résous pas tout par la force. Hein, tu peux aussi te soumettre. Tout simplement.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ah, mais c'est un jeu où tu as le choix, quoi. Tout
ouais,
simplement.
Ouais.
Mais il faut c'est ça aussi qui est très intéressant, si tu as des choix. Mais il faut assumer les conséquences de tes actes.
Ouais.
Alors aussi, bon, il y a des trucs, genre, si vous vous débrouillez bien, il y a certains persos, vous pouvez minimaxer. Et j'ai envie de vous dire, vous priez pas de les minimaxer parce que... Le dernier boss, vous allez en avoir besoin de ces persos-là. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur Abaddon de Black Fortress.
Ouais.
Si ce n'est que j'attends avec impatience les prochains jeux de Spiderweb Software. Je vous incite à aller sur leur page pour voir les autres jeux qu'ils ont proposés, parce qu'ils ont même fait des tonnes. Alors, je vous cache pas que moi, pourquoi c'est le premier jeu que j'ai joué de Spider-Man Software, alors que c'est un jeu que je connais depuis pas mal de temps, c'est parce que c'est vraiment le premier jeu qu'ils ont fait où mes yeux ne saignaient pas quand je voyais le jeu, quoi. Donc, okay. Peut-être que les anciens jeux sont aussi passionnants, mais le problème, c'est que ça me piquait tellement les yeux, c'était juste pas possible pour moi. Voilà.
Ok. Et donc, c'est jouable uniquement sur PC.
PC, Mac.
PC et Mac. Et donc sur Steam, je suis allé regarder, ça vaut 7€.
Voilà. Vraiment, si vous aimez les jeux où il y a du dialogue, où il y a des dilemmes moraux, que vous aimez le tour par tour, que vous aimez réfléchir à des stratégies, parce que c'est ça aussi. Les combats sont vraiment très bien. Classique, mais très bien. Il réinvente pas la roue, quoi. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais très clairement, si vous voulez un jeu avec un background révolutionnaire qui ne soit pas de la fantasy classique, etc.,
c'est
clairement pas ça. Si vous voulez une base graphique, c'est clairement pas ça. Ouais. Au niveau des musiques, c'est très oubliable, quoi, j'ai envie de dire.
D'accord.
La force du jeu, c'est vraiment son écriture, quoi. Son écriture et son système de jeu.
Ok.
Voilà.
Très bien.
Eh bien, c'en est tout cette semaine. Eh bien, on passe au point culture. Et je crois, mon cher Morane, que tu voulais nous parler de la dernière production Ghibli qui s'appelle...
La colline au coquelicot. Le film a été réalisé par Gorō Miyazaki, donc ce n'est pas Hayao Miyazaki, le grand maître, mais son fils. Donc c'est sorti le 11 janvier 2012, si mes souvenirs sont bons. Et donc je vais vous raconter pourquoi je suis un tout petit peu déçu par ce film. Je me suis un peu spoilé, mais bon, c'est pas grave. en fait, ça se passe donc au niveau du scénario, ça se passe dans une petite ville portuaire du Japon, évidemment. On suit l'itinéraire d'une jeune collégienne qui s'appelle lycéenne pardon, qui s'appelle Umi Matsuzaki. Elle a perdu son père en fait très jeune. Son père était marin et elle doit gérer toute seule en fait la pension de sa mère. Et sa petite sœur. Donc en fait, elle gère toute une pension. C'est un gîte en fait qui accueille des femmes. Et elle gère aussi sa grand-mère. Et au lycée, en fait, elle fait la connaissance d'un jeune homme un peu casse-cou qui s'appelle Shun Kazama. Lui, en fait, il gère le journal du lycée. Ouais. Et milite pour la sauvegarde en fait du foyer lycéen. Pourquoi ? Parce que c'est un bâtiment qui s'appelle le quartier latin qui existe depuis les années 50 et c'est un bâtiment que les lycéens en fait ont investi et qui est chargé d'histoire comme on dit. Et donc il milite vraiment contre la démolition de ce foyer et la construction d'un nouveau bâtiment. Voilà. Donc les deux jeunes gens vont bien évidemment commencer à bien s'apprécier.
Pas possible, on s'en doutait pas, franchement.
Voilà. Mais Shun va se rendre compte que leur amour est impossible. Voilà. Donc je vais pas vous raconter pourquoi. Donc en gros, le scénario se concentre vraiment sur les deux adolescents, leurs rencontres, les soucis qui les accablent et leurs activités. On découvre donc la vie dans cette mignonne petite ville côtière où il a l'air de faire bon vivre. En tout cas, moi, ça me donne bien envie de passer mes vacances là-bas. Par contre, en fait, moi, j'ai trouvé le scénario assez décevant parce qu'en fait, il pêche en fait par excès de lenteur, en fait, je trouve. Et je trouve surtout que la fin est beaucoup trop attendue. Enfin, on s'y attend, c'est évident. Enfin, le film commence, tu sais comment ça va se terminer, et c'est un petit peu dommage, je trouve, quand même, de pas avoir fait un petit effort au niveau de la fin. Je trouve aussi que l'évolution de la relation entre les personnages est un peu trop pudique, inavouée. Enfin, je leur demande pas non plus de se sauter dessus, mais quand on parle un petit peu d'amour, il faut quand même montrer un petit peu plus autre chose que qu'une fille qui rougit, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage et je trouve que l'obstacle qui les sépare en fait, le fait que ça soit finalement pas vraiment un, c'est assez gênant au niveau du scénario. Donc je trouve que voilà, c'est déjà ne serait-ce qu'au scénario ça pêche un peu et c'est je pense que ça a conditionné mon appréciation du film.
Alors question, oui. Moi il faut savoir qu'il y a un truc qui m'attire particulièrement chez les productions Ghibli en général, ouais. C'est l'évasion quoi. C'est moi ce que j'aime chez les productions Ghibli, c'est qu'en général il y a toujours un élément fantastique. Il y a toujours une part de rêve, de surnaturel, etc.
Mmh. Ouais.
Alors là, pour le coup, c'est un truc qui m'a un peu choqué quand j'ai vu les bandes annonces, etc. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a vraiment pas du tout ça dans cette production là. C'est le cas.
Oui, c'est le cas. Il y en a vraiment pas du tout. En fait, ça se passe dans les années 60. Et je t'ai dit tout à l'heure que le bâtiment est daté des années 50, c'est faux, hein, c'est avant la guerre, hein, bien évidemment. Donc en fait, il n'y a pas du tout d'éléments de fantastique. Pourquoi ? Parce qu'on se concentre sur une vie dans les années 60 au Japon rural, on va dire. Mmh. Et donc du coup, il n'y a pas du tout de tous ces caractères qui sont propres au cinéma de Miyazaki père, avec tout ce qui est l'enfance, et la représentation par les formes fantastiques de certains traumatismes. Ça, il n'y a pas du tout. Alors, il y a quand même le traumatisme de l'enfance qui est présent avec l'absence du père. Mais il n'y a pas du tout d'évasion. Bon, en revanche, au niveau de l'esthétique, c'est tout à fait propre. Il y a vraiment des plans qui sont magnifiques. Donc, comme d'habitude, hein, c'est les studios Ghibli. Au niveau visuel, c'est magnifique. C'est très soigné. Bon, peut-être par moment, au niveau de l'animation, ça saccade un tout petit peu, mais bon, ça c'est juste pour pinailler. Et au niveau, alors c'est ce qui est assez marrant, c'est qu'au niveau des films de Hayao Miyazaki, ça chante pas beaucoup, mais dans la colline au coquelicot, ça chante énormément. Moi, ça m'a surpris. En fait, t'as vraiment des moments où tu as toute la chorale de l'école qui chante. Et je sais pas trop pourquoi, en fait. Enfin, c'est.
Je veux dire, c'est pas une comédie musicale non plus. Quoi,
non,
d'accord.
Non, non. Mais il y a bien, je sais pas moi, un quart d'heure sur tout le film de moments où ça ne fait que chanter.
Et ça change le film dure.
Une heure et demie. Donc côté bande originale, en fait, le film est beaucoup plus chantant que les Ghibli habituels, et je trouve que ça tranche un petit peu avec la tradition. Et alors les chansons sont très jolies, hein, c'est pas le souci, mais je trouve qu'elles sont un peu trop omniprésentes et que j'aurais aimé qu'au niveau de la musique orchestrale, ça soit un petit peu plus développé.
Si tu veux peut-être, enfin je comprends, c'est en fait ce que tu dis, c'est que peut-être la musique soit présente, mais qu'elle ne soit pas qu'il n'y ait pas que ça que ça soit pas une séquence musique puis on passe à autre chose, quoi.
C'est ça.
C'est qu'elle accompagne la scène, quoi.
Ouais.
L'histoire, tout
Donc
simplement.
C'est vrai que, bon, il y a des moments où c'est les personnages qui chantent, où tu comprends, et il y a des moments où, en fait, on te met un morceau de musique chanté par-dessus l'action, et c'est vrai que je trouve que c'était pas forcément nécessaire. Alors, bien sûr, c'est joli, hein, il y a pas de problème, ça nous casse pas les oreilles, bien évidemment. Mais je trouve que ça va pas forcément avec ce qui se passe. Donc,
Tu veux dire que la musique n'est pas en adéquation avec ce qu'on montre à l'écran, quoi.
J'ai pas trouvé, en fait.
C'est problématique, effectivement.
J'ai eu l'impression, en fait, que de ressentir moins d'émotions que d'habitude, en fait, devant ce nouveau Ghibli. Donc, c'est pour ça que je le trouve un peu décevant par rapport au standard qu'on avait des studios Ghibli. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu as des questions?
Au niveau des personnages, parce que si tu veux, ce que tu m'en as dit là, j'ai l'impression de voir l'anime typique japonais ou des adolescents très prudes qui, c'est les années 60, mais c'est vraiment aussi classique que ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des ados qui voilà, en gros, le mec, il a jamais vu sa vie, ou enfin non, je veux pas dire ça, mais c'est vraiment la relation, elle fait pareilliste, quoi. C'est ça ce que je veux dire. C'est
Disons que ça fait très années 60, quoi. Enfin, c'est pas au niveau de la relation, ça va pas étape par étape, quoi. T'as l'impression que c'est très très stable et que ça change pas vraiment, en fait. Parfois t'as des petits gestes, par exemple le garçon qui va lui offrir quelque chose à manger, et là tu dis waouh, une grande relation, et ça va pas vraiment beaucoup plus loin que ça, tu vois. Tu vas évidemment pas voir de baiser, c'est très prude de ce côté-là. Je veux bien que la mentalité japonaise soit pas la même que la mentalité occidentale, je leur demande pas non plus de se sauter dessus, je l'ai déjà dit. Mais c'est vrai que on a du mal parfois à se dire, mais ils sont amoureux ou pas? Et c'est assez gênant de ce côté-là, quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu en retrait. Les personnages sont pas très charismatiques.
Le truc qui me gêne, si tu veux, c'est que là, en fait, j'ai l'impression que déjà il n'y a pas une évolution des personnages au final, c'est quand même un peu ennuyeux.
La seule évolution qu'il y a, c'est la qu'on leur raconte ce qui s'est passé avec leurs parents. C'est tout. Ça se déroule à la fin. Et c'est ce que je te disais, on s'y attend. Donc il n'y a pas vraiment
Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'au par-dessus, au niveau du scénar, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, quoi. Alors, attends, je récapitule, là. Alors, il n'y a pas de fantastique.
Non.
C'est la vie quotidienne des années 60. Il n'y a aucune évolution des personnages. Le scénar casse pas trois pintes un canard. Attends, mais il a quoi comme qualité, ce film, en fait?
Le seul visuel, et ça commence à faire peu. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis vraiment déçu par ce film-là. Après, j'en attendais pas forcément beaucoup. D'après les bandes annonces, je me disais que bon, c'était un Ghibli comme ça, en attendant le prochain coup de maître. Mais c'est vrai que c'est alors pour avoir vu celui de l'année dernière, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, c'est beaucoup plus intéressant.
Chanté par une française, s'il vous
Voilà.
plaît.
Et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir cette chanson et aller voir les bandes annonces du film si vous l'avez pas vu. C'est vraiment très très beau. Et donc là vraiment, on a un fossé entre les deux. On a Arrietty, qui est un film magnifique de bout en bout, avec des thèmes qui sont vraiment intéressants, et un film qui peut plaire aux petits et aux grands. Et on a La Colline aux Coquelicots, qui est un film, bah, finalement assez banal. Et pas si intéressant que ça. Et donc
En
c'est
plus, quand je t'écoute, moi je me demande à quel public il vit ce film. Parce que les gosses,
pas
à
vraiment.
mon avis, vont un peu s'emmerder, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. S'il n'y a pas de
Exactement.
fantastique, etc. Parce que la vie quotidienne d'ado des années 60, je suis pas sûr que ce soit le truc plus passionnant pour un gamin. Très clairement. Les adultes, ouais, super. Vous me prenez pas grand chose, ah oui, ok, c'est des adolescents, ok, ouais. Les ados, ils vont voir ça, ils vont rigoler. En fait, je vois pas trop quel public vit ce film, en
Ouais,
fait.
c'est un peu la grande énigme.
Ça me laisse un peu circonspect, quoi.
Bah, moi c'était pareil. J'ai pas trop compris en fait ce qu'ils voulaient faire avec ça. Et c'est vraiment dommage, parce que en fait, quand on se dit bon, la vie quotidienne de lycéens des années 60, comme ça dit comme ça, tu te dis bon, je vais me faire chier. Mais ça peut être très intéressant. Le souci, c'est que ça n'a pas été rendu intéressant.
Y a des tonnes de mangas ou d'animes tranches de vie qui le font très bien,
Bien sûr.
mais ça implique qu'il y ait une évolution des personnages. Or, tu me
Voilà.
dis qu'il n'y en a pas.
Ben,
Donc, à un
disons
moment
que
donné,
c'est très très peu. Enfin, ça évolue très 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 très
c'est à la
peu.
marge, quoi.
Voilà, c'est vraiment à la marge du truc. Donc, on se dit que ce qui va être le fil directeur du film, c'est la relation entre les deux personnages. C'est ça. Le problème, c'est que la relation évolue tellement peu que on commence à se poser la question s'il y en a vraiment une d'évolution. Donc voilà, je trouve que en fait, ce qui fait défaut à La Colline aux Coquelicots, c'est vraiment son scénario et le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'intention derrière. Parce que en fait, le problème, c'est que on n'a pas l'intention de te dire quelque chose en fait derrière le film. Et c'est un petit peu dommage, quoi.
Bah
Voilà.
oui, non mais si tu veux, encore ce serait un truc fantastique, etc. Faire voyager les gens. Ça irait, mais là, c'est un anime tranche de vie. Et c'est si tu fais un film tranche de vie dans lequel il n'y a aucune intention, je veux dire, il n'y a rien pour faire voyager les gens, il n'y a rien pour émerveiller les bambins. Enfin, s'il n'y a pas d'intention derrière, ça marche pas, quoi. Et encore, par exemple, là, tu vois, tu me dis, il y a l'histoire de démolir le il va démolir son auberge, c'est ça, si j'ai bien compris.
Ils veulent démolir le foyer lycéen.
Encore, tu vois, ça pourrait être genre je sais pas moi, une critique de la société des années 60, ou je sais pas, ça aurait pu être ça aussi. Quand tu me dis ça, moi quand tu m'as fait le pitch, d'abord au premier abord j'ai pensé à ça, tu vois. Je me suis dit, oh oui, ça doit être une critique des années 60, etc. Ils ont rajouté une petite histoire d'amour dessus, pour faire genre, tu vois. Mais c'est même pas ça apparemment, donc il y a
Non, si tu veux, c'est en fait, on te pose le problème et la résolution arrive tellement vite qu'on se dit qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'obstacle, il n'y avait pas vraiment de problème en fait. Donc, c'est vraiment le souci. En fait, on te dit, bon, ça c'est le problème du film, c'est le problème des personnages, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? On se dit, bon, c'est une situation qui a l'air difficile quand même, comment ils vont faire pour s'en sortir? Et le problème, c'est que la résolution arrive tellement vite derrière qu'on se dit que finalement c'était pas si dur que ça et que il y a pas eu vraiment de problème derrière en fait. Donc c'est encore une fois c'est décevant. Donc c'est vraiment au niveau de la construction du scénario qu'il y a un problème. Et je déteste le dire, mais c'est quand même Hayao Miyazaki qui l'a écrit le scénario. Donc en collaboration avec un autre scénariste de chez Ghibli.
Mais après, il y a l'écriture et il y a la mise en scène derrière, parce que bref. Bon, visiblement, c'est pas un film que tu recommanderas, j'imagine.
Non. Bon, si vous avez l'occasion de le voir à la télé, bien évidemment, je vous dis pas de passer votre chemin, mais ça vaut pas de payer votre place de cinéma, ça c'est sûr.
Ouais, surtout vu le prix des places de cinéma.
Voilà, c'est clair.
Et voilà quoi. Mm-hmm.
Donc bon, je croise les doigts quand même pour que le film des studios Ghibli de 2013 soit comme relève un petit peu le niveau. S'il y en a, bien sûr, ça se trouve, on sera plus là.
La fin du monde. La fin du monde. Eh bien voilà, c'est sur cette note positive que nous terminons notre podcast cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Jouez bien, éclatez-vous. Ciao.
Salut.